l'expérience de l'adoration. L'expérience de l'adoration. Nous avons vu la semaine passée déjà, nous avons eu un message sur l'adoration, et donc nous avons vu quelques exemples dans la parole de Dieu. Nous avons vu que la louange attire nos yeux sur ce que Dieu fait. Sur ce que Dieu fait. Notre louange doit être bâtie sur les actions de Dieu, sur la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle nous relate des hauts faits de sa puissance. Nous devons intégrer la culture de la louange dans notre Église. La culture de la louange. Une nouvelle façon de vivre, une façon de vivre qui glorifie Dieu. Chaque jour, nous devrions être des adorateurs en esprit, en vérité. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La culture de se rappeler ce que Dieu fait pour moi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Souvent, Dieu fait plein de choses, mais on passe à autre chose. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter pour contempler les merveilles de Dieu. Tout ce qu'il a accompli pour moi. Toutes les choses qu'il a faites. C'est presque normal et naturel. Oui, Dieu, oui, il me sera bien, moi, oui. Mais si je suis en bonne santé, c'est aussi une occasion de remercier le Seigneur. Si tout s'est bien passé, parce que Dieu, j'avais prié, parce que nous prions normalement pour tout ce qui nous arrive. Hein, nous plaçons devant Dieu toutes les situations difficiles et les situations normales. Le fait de conduire en voiture, c'est plus extraordinaire, hein, on conduit depuis des années, mais on continue à prier pour qu'il ne nous arrive pas d'accident, vous êtes d'accord? Hein, pour nos maisons, pour nos enfants, bien sûr, le conjoint, etc. C'est tellement important. Et Dieu, il agit, il fait des choses merveilleuses. C'est vrai qu'il y a encore des sujets de prière qui sentent ne pas être accomplis, mais c'est pas pour ça que nous devons nous décourager, avoir seulement les yeux sur ce qui semble ne pas avoir été encore accompli. Ça a déjà été entendu. Dieu a entendu notre prière et Dieu est en train d'agir. En fait, c'est envoyé. Enfin, je veux dire, la bénédiction est envoyée des cieux. Elle arrivera. Elle arrivera. C'est déjà accompli dans le ciel. Et ce qui est accompli dans le ciel va s'accomplir sur la terre, de toute façon. Alors, c'est important de redire à Dieu ce qu'il a fait pour moi, parce que ça encourage ma foi. Vous avez dit ça. Ça encourage ma foi de redire à Dieu tout ce qu'il a fait pour moi. Et la confession de la louange, c'est une confession que j'appartiens à Dieu, qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est merveilleux, qu'il agit, qu'il est agissant, et cette confession m'encourage et encourage les autres. C'est des paroles extrêmement positives qui encouragent mon âme. Pour ça que le psalmiste encourageait son âme à adorer le Seigneur, à célébrer le Seigneur, même si il était un petit peu dans un autre état, parce que les sentiments ils peuvent être variés. Et des fois, quand on se lève le matin, on n'a pas forcément un grand sourire jusqu'aux oreilles. Pas toujours. Des fois oui, des fois non. Des fois, il nous faut du temps pour entrer dans la journée, hein, d'accord. Mais le plus rapidement que nous avons les yeux sur le Seigneur, le plus rapidement que nous avons ce sourire de Dieu sur nos lèvres, et c'est surtout parce que Dieu met la joie dans notre cœur. Alors, il faut abattre le défaitisme, et c'est par la louange, l'adoration. Abattre le découragement, abattre la dépression, abattre les pensées négatives. Parce que c'est le naturel, ça. Mais le naturel doit être chassé, non pas chassé au galop. Il revient au galop, c'est vrai, mais nous devons mourir à ces choses pour faire vivre quelque chose de neuf. Jésus est ressuscité, hein, il n'est pas resté sur la mort, hein, il n'est pas resté sur une croix, d'accord? On ne doit pas rester dans le négatif, on doit penser à la résurrection, on doit penser à avoir les yeux plus haut. Il est assis sur le trône, il est à la droite du Père, il intercède pour nous, et parce qu'il est là-haut, et nous y sommes déjà spirituellement, hein. On oublie des fois qu'on est le temple du Saint-Esprit et que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est notre position, notre identité de fils et de fille de Dieu, assis et assise sur le trône de Dieu à la droite du Père. Alors, on se lamente sur notre situation et on est assis où, là? Dans l'avenue de la dépression? Non, dans l'avenue de la louange, de l'adoration. Nous voulons adorer le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Aller à contre-courant de l'esprit de ce monde, ça c'est clair. et amener une atmosphère positive. Comment est-ce que je peux amener une atmosphère positive en ayant l'esprit de louange, l'esprit d'adoration? Pour ça, il me faut la foi, bien sûr. La foi qui, non seulement qui sauve, qui va sauver un jour, mais la foi qui maintient dans le Christ. Et la foi qui me fait voir les épreuves comme n'étant pas la fin. Parce que Dieu est capable de prendre son bulldozer et de renverser les montagnes qui s'opposent à ma vie, qui sont là devant mon champ de vue. Quand on fait une autoroute, je peux vous assurer, ils prennent des grands bulles et on bouleverse, vous avez déjà vu les montagnes qui sont comme ça, hein, un grand V, un curvé, parce que là au milieu, il y a l'autoroute qui doit passer, hein. Il y a des ponts pour relever, et puis on abaisse aussi, hein, forcément, il ne faut pas non plus que l'autoroute fasse ça, donc le plus droit possible. Et c'est ce que Jean-Baptiste disait, hein, que Dieu allait niveler les montagnes, combler les vallées. Mais pour nous aussi, Dieu fait tracer un chemin, c'est un chemin de louange qui nous fait culbuter les montagnes devant nous et rendre le chemin praticable. L'esprit de louange est un esprit de force. Un esprit de force. Et Dieu veut vraiment nous aider à prendre confiance, à amener une atmosphère positive, à aller à contre-courant de l'esprit du monde, avoir la conscience de ce que Dieu fait pour nous. Si j'ai la conscience de ce que Dieu fait pour moi, c'est pas avoir peur. Je sais que Dieu conduit mon chemin. Je vois Dieu dans ma vie. Bien, je vois les problèmes et je m'affole. Ça, c'est les gens du monde, ça, qui sont rassurés par des fausses promesses des politiciens. Non? Mais on n'est pas rassuré par les promesses des gens qui peuvent nous entourer, on est rassuré par les promesses de Dieu qui, elles, sont valables et sûres. On peut s'encourager aussi. Mais on s'encourage par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous encourage. Dans nos bouches, les uns par rapport aux autres. Par les paroles humaines, ça va aller. Oui, ça va aller, mais bon. Hein, si Dieu est avec toi, ça va aller, c'est sûr. Dieu va te donner la victoire. Nous devons développer un esprit de gratitude. Remercier le Seigneur pour toutes choses. Apprendre à rendre des actions de grâce. Pas seulement avant de manger, merci Seigneur, avant le repas, mais pour toutes choses, pour les difficultés aussi. Les moments durs, les moments difficiles. Pour un mari qui n'est pas facile à vivre. Pour des enfants qui traversent une période de crise, etc. C'est pas évident. Hein, on remercie Dieu malgré tout. Même si on est malade, et même si il y a des difficultés par lesquelles nous devons passer, on ne sait pas trop comment s'en sortir. Mais Dieu a la solution, hein, il est la solution. Donc je loue celui qui est la solution de toutes choses. Les problèmes ne vont pas nous détruire. Mais je peux voir la victoire au travers de la louange. Si nous apprenons à louer Dieu en toute occasion, Dieu fera de plus grandes choses pour nous. En toute occasion, à tout moment, faites tout pour la gloire de Dieu. La première chose, c'est de louer Dieu en toute occasion et il fera de plus grandes choses pour nous. Prenons la victoire. C'est ce que nous avions vu dimanche passé. Alors, une illustration de l'expérience d'adoration. Le théâtre de l'adoration, ça c'est selon Kierkegaard, c'est un philosophe danois, Kierkegaard. Il compare l'adoration à une production théâtrale. L'acteur, c'est le conducteur de louange. Pour lui, l'acteur principal, c'est le conducteur de louange. Le souffleur, c'est Dieu. Et l'auditoire, ce sont les chrétiens qui apprécie ou qui n'apprécie pas. Voilà. Mais il y a une autre façon de voir les choses quand même. Et l'autre façon de voir les choses, l'acteur, ce sont les fidèles, les chrétiens ensemble, l'assemblée. Ça, ce sont les acteurs. Le souffleur, c'est le conducteur, celui qui inspire, qui conduit les choses pour aller plus loin, plus proche de de Dieu avec l'Esprit Saint, pas tout seul. Le conducteur sans l'Esprit, il va peut-être mettre un peu d'enthousiasme, en chauffer les bancs, mais c'est pas tellement ça qui est important, c'est justement que l'Esprit puisse prendre place, parce que dans l'adoration, ce qui est important, c'est que la présence de Dieu soit manifeste. Imaginez qu'on va devoir louer Dieu sans la présence de Dieu. Alors on loue Dieu, alors il faut obéir à Dieu, on loue Dieu, mais bon, on ne sent rien du tout, on vit, je sais pas, et il n'y a rien. Bref, je crois que quand Dieu est là, il se manifeste, non? On se sent soutenu, on se sent béni, on sent qu'il y a quelque chose, on touche Dieu, on sent qu'on est proche du Seigneur, le ciel s'est avancé vers nous, il est descendu sur la terre, parce que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et faire venir le ciel sur la terre est important, l'adoration c'est ça, c'est réunir, et c'est le but de Dieu, c'est de réunir les choses qui sont en haut dans le ciel, avec celles qui sont en bas dans l'adoration, il y a une relation verticale où Dieu se manifeste par sa présence. Ce que nous cherchons dans l'adoration, c'est la présence de Dieu. Vivre dans la présence de Dieu, marcher dans la présence de Dieu, louer Dieu dans sa présence. Parce qu'on veut qu'il se glorifie, on veut ressentir sa présence. On veut vivre sa présence. Et même si on ressent rien, on démarre comme ça, mais il doit y avoir quelque chose. Il va se passer quelque chose. On va dépasser nos découragements, on va dépasser nos pensées négatives, on va les remettre à Dieu, on va confesser nos péchés, on va abandonner nos vies et nos voies devant le Seigneur, il s'occupe de nous, nous allons focaliser nos yeux sur le Seigneur, et à partir de ce moment-là, c'est Dieu qui devient chef d'orchestre. C'est extraordinaire. On a remis la baguette au Seigneur. C'est moi qui dirigeais peut-être, mais non. Attends, hop, je me soumets, j'obéis. Maintenant, je regarde au chef d'orchestre, parce que les musiciens, quand ils jouent, ils doivent regarder le chef, parce que c'est, le chef, il donne... sinon, on dérape, hein. On est à côté de la plaque, on est dans la confusion. Quand Dieu a la baguette, alors là, ça devient une harmonie. Et tous les uns avec les autres, ça c'est extraordinaire, c'est prodigieux. L'Église, elle est faite pour louer Dieu. Nous sommes faits pour adorer le Seigneur. Et ensemble, en plus. Extraordinaire. Nous pouvons le faire seul, mais combien c'est plus extraordinaire, excitant, de pouvoir adorer Dieu ensemble. Parce que nous sommes une habitation de Dieu en esprit, ensemble. Évidemment. Et rien de plus normal pour l'Église de l'adorer. Quand nous nous réunissons pour adorer, nous ne venons pas pour observer, mais pour nous unir pleinement avec Dieu. Voilà. C'est pas pour observer ce qui se passe. Tiens, c'est bien ou c'est pas bien aujourd'hui. Non, c'est pas ça. C'est de savoir que nous sommes les acteurs. Ce sera bien si on s'y donne à fond. Si on se donne à fond, ce sera bien. Si tout le monde vient avec cet esprit d'adoration et que je me donne à fond dans la louange, mais je peux vous assurer que l'adoration, elle passe au dehors des murs. Elle rencontre Dieu lui-même. C'est pas savoir si on a une, si c'était bien l'adoration aujourd'hui. Non, c'est l'important, c'est est-ce que j'ai adoré? Est-ce que j'étais celui que Dieu voulait que je sois dans l'adoration? La dimension d'adoration, Colossiens chapitre 3 verset 16, que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. On va peut-être laisser quelqu'un le lire. On va le reprendre parce que on veut bâtir notre vie de relation, d'adoration sur la parole de Dieu. Prenez Colossiens 3:16 et quelqu'un d'autre le lit dans sa version. Prenons une autre version que la seconde 21. Si quelqu'un a une autre version, comme ça, ça donnera une autre façon de voir. Voilà, quelqu'un peut-il lire? Tadi va lire, je le sens. Voilà, et même le verset 17, si tu veux. Voilà. Donc, le but, c'est adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est le mettre en premier, au-dessus de tout. Et c'est important. On parle de mettre Dieu, de faire tout pour lui. De chanter pour le Seigneur, pour le Seigneur. Vraiment pour le Seigneur. Quand on chante, c'est pour le Seigneur. Les hymnes, les cantiques spirituels, etc., c'est pour le Seigneur. Et on le fait ensemble. On le fait ensemble. Et ça édifie les uns et les autres. Ça encourage. Sous l'inspiration de la grâce. Sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Avec des actions de grâce. Avec une reconnaissance à Dieu le Père. Alors, il y a trois dimensions à notre culte d'adoration. La première dimension, c'est l'aspect vertical de l'adoration. L'aspect vertical. L'adorateur communique avec le Seigneur. D'accord. Pourquoi devons-nous consacrer du temps et de l'énergie avec le Seigneur? Ça prend du temps, hein. Ça prend de l'énergie. C'est une bonne, c'est pas une énergie perdue, hein. Avec le Seigneur, le temps que vous prenez avec lui, vous êtes toujours récompensé. Dieu agit bien plus dans votre vie. Si vous êtes fatigué, prenez du temps avec Dieu. Il renouvelle nos forces de ceux qui se confient en lui. Perds pas son temps avec lui. Donc, le but, c'est de servir, c'est de bénir, c'est de glorifier le Seigneur. C'est la, le premier commandement, c'est tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. On est bien là. L'adoration, c'est pas quelque chose de bizarre. Tiens, dans cette église, on adore Dieu. Là. Non, c'est tout à fait normal. Tu adoreras ton Dieu. Comment est-ce qu'on le fait à part en adorant Dieu? Oui, nos actions doivent être conformes à ce que nous pensons, etc. C'est une forme d'adoration. Mais l'adoration, c'est quand même une adoration. Ça part du cœur et ça passe par nos bouches, oui ou non? Nos lèvres, qui confessent son nom. Sinon, je ne sais pas comment est-ce qu'on adore. Mais bien sûr, c'est une forme d'adoration, d'avoir un bon comportement, etc. Mais ça ne remplace pas la louange par nos lèvres non plus. Ça, c'est clair. La question à se poser après un culte n'est pas est-ce que Dieu est... Et est-ce que Dieu était satisfait de notre sacrifice de louange? Et non, est-ce que nous avons aimé le moment de louange? Est-ce que le moment de louange était un sacrifice agréable à Dieu? C'est ça. Quand je viens dans la présence de Dieu, j'offre mon corps. Saint, agréable à Dieu. Et j'offre ma vie comme un sacrifice. Et mes lèvres aussi, bien sûr, mes lèvres comme un sacrifice. J'offre à Dieu un sacrifice d'adoration. Je me donne à Dieu. Et en se donnant à Dieu, je lui dis des choses merveilleuses. Vous savez, les enfants ont besoin d'entendre des paroles agréables de notre part. Des paroles qui les rassurent, qui les réconfortent, d'appréciation positive. Et nous aussi, hein. Nous aussi. Ouais, alors on est grand, on n'a plus besoin de ça. Non, c'est faux. On a besoin d'entendre « je t'aime ». On a besoin d'entendre des paroles valorisantes. On en a besoin. J'en ai besoin, vous en avez besoin, nous en avons tous besoin, d'accord? D'une manière ou d'une autre. Il n'y en a pas un qui peut dire « je suis fort, ça va, j'ai pas besoin de ça ». L'amour, on en a besoin tous. On en a besoin tous et Dieu demande que nous puissions l'adorer. Et c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Ça nous coûte quelque chose. Ça nous coûte de nous offrir à Dieu. Parce que, comme disent certains, on n'est pas toujours prêt et disposé à adorer Dieu. Des fois, il y a des problèmes. J'ai des problèmes dans ma tête. Je pense à un truc qui m'embête d'ailleurs. J'ai pas la solution. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce truc-là? Soit ça va empoisonner ma vie, soit je mets ce problème-là sur le côté et je regarde au Seigneur. Et si je veux vraiment regarder au Seigneur et obéir à la parole de Dieu, je vais l'adorer. Je vais l'adorer. Je ne sais pas comment la situation va s'arranger, mais l'adoration, c'est ce que Dieu me demande. Alors, pourquoi devons-nous consacrer du temps et de l'énergie pour adorer Dieu? Pour donner l'occasion à la puissance de Dieu de se manifester dans son Église. La puissance de Dieu se révèle dans sa présence, nous l'avons vu. L'adoration donne à Dieu une atmosphère de liberté. Ah, la liberté à laquelle nous sommes appelés, elle va pleinement s'épanouir dans un climat de louange, d'adoration. Les crispations, les craintes, les ci, les là, toutes ces choses commencent à disparaître à partir du moment où on adore Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Il y a plein de choses, il y a des déclics qui se produisent. Et ça permet une communication avec le ciel. Il y a vraiment un ciel ouvert. On a parlé du ciel ouvert, les églises. Mais quand on adore Dieu, il y a des fenêtres qui s'ouvrent au ciel. C'est de nous. Nous sommes en relation avec le Seigneur et c'est ainsi que le Saint-Esprit va nous convaincre de péché. On en a besoin. Et ça arrive souvent hein, que Dieu nous rappelle quelque chose et là tu dois demander pardon. Ça peut se passer et normalement ça se passe déjà chez soi. Hein. Il n'y a pas besoin d'attendre le dimanche matin pour être convaincu de péché. Parce que quand on pêche, le Seigneur nous le rappelle, nous le montre. Nous sommes dans sa présence. Puis voilà, il nous purifie, je veux pas attendre le dimanche matin, bien sûr. Mais dans un rassemblement, il y a une onction particulière. Normalement, si tous nous venons avec l'esprit d'adoration dans l'église, dans la salle où nous nous réunissons, ben là, il y a un esprit d'adoration particulière où Dieu travaille nos cœurs, nous bouleverse, et on peut confesser nos péchés. Nos cœurs s'ouvrent au Seigneur, nous recevons la purification, le renouvellement. L'œuvre de Dieu, elle commence dans la repentance. Hein. Il n'y a pas que la repentance quand on donne son cœur au Seigneur. Il y a la repentance de tous les jours. Et quand Dieu parle, quand Dieu agit, quand Dieu se manifeste, eh bien, il y a des petites choses là qui sont cachées quelque part dans nos vies. Et hop, c'est mis à nu. Et puis voilà, on est libéré. C'est ce que Dieu veut faire. Alors, il y a l'aspect horizontal de l'adoration. L'adorateur est en relation avec les autres. Faut pas dire... Comme disait une sœur il y a longtemps, moi je viens pas pour les autres à l'église, je viens pour Dieu, pour adorer Dieu. Quelque part, c'est vrai, on vient pour adorer Dieu, mais on peut pas quand même empêcher le fait que je suis pas tout seul. Quand j'irai au ciel, je serai tout seul avec lui. Et t'imagines, oh, je t'attendais depuis si longtemps et je suis tout seul là. C'est une image, ça c'est peut-être dans le rêve, mais la réalité c'est que j'ai des millions, des centaines de millions de frères et de sœurs, d'accord? Des milliards de frères et de sœurs qui sont réunis avec le Seigneur, et sur la terre, j'ai des frères et des sœurs. Et c'est avec eux que j'adore Dieu, j'apprends à adorer Dieu, à faire des progrès dans la louange et l'adoration. Il y a des dynamiques interpersonnelles qui se mettent en place. Par exemple, le sentiment d'une plus grande unité au sein du corps de Christ. Le sentiment d'une plus grande unité. Nous sommes unis, mais encore plus unis quand nous adorons, quand nous sommes un peuple d'adorateurs. Parce que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, travaille nos vies. Donc, on confesse, bien sûr, on confesse, on proclame la parole de Dieu et ça édifie les autres. Ça augmente notre courage et notre foi pour annoncer son nom aux incroyants. Parce que si nous prenons, nous savons communiquer, nous savons confesser le nom du Seigneur dans l'assemblée, nous savons le faire à l'extérieur aussi, sous une autre forme évidemment, sous la forme de l'évangélisation. Parce que nous avons appris à utiliser notre langue à adorer celui qui est de toute éternité. Et cette audace, cette force, nous allons l'avoir en sortant de l'église pour annoncer l'évangile aux autres. Si nous n'avons même pas l'audace de prendre notre place dans la louange, dans l'assemblée des justes ou avec des chrétiens, combien ça va être difficile de parler de Jésus à l'extérieur de l'église. Si j'ose pas déjà dans l'église, ouf, à l'extérieur, que ça va être extrêmement difficile. Le psaume 108, verset 3 dit ceci. Seigneur, je veux te dire, verset 4, je veux te dire merci parmi les peuples, je veux jouer pour toi parmi ceux qui ne te connaissent pas, je veux te dire merci parmi le peuple, je veux te louanger, je veux annoncer, publier, proclamer ta parole, chanter ta parole, bénir ton nom au milieu des nations. Les nations, c'est pas des gens fidèles, forcément. Oui, on pourrait dire c'est chez les fidèles de toutes les nations, mais c'est David, hein. Et David, en dehors d'Israël, c'était des idolâtres. Et il disait qu'il allait annoncer l'évangile dans les nations. C'est le rôle de l'église, aller jusqu'au bout de la terre pour annoncer. Et nous avons de l'audace parce que nous sommes des adorateurs et nous savons aussi exprimer vis-à-vis des non-croyants la parole du Seigneur. Et quelquefois, les non-croyants sont dans l'église. Nous amenons normalement des non-croyants dans l'église, vous êtes d'accord, hein? On ne doit pas seulement se retrouver avec des croyants, il faut se retrouver avec des non-croyants dans les assemblées. C'est le but. Le plus de possible croit au Seigneur. Et au travers de la louange, eh bien, il peut se passer des choses extraordinaires. Les incroyants sont interpellés par la puissance convaincante du Saint-Esprit et conduits vers le Seigneur. Au travers des dons spirituels, par exemple. Dons de connaissance, dons de sagesse, dons, bien sûr, les ministères aussi ont la capacité d'annoncer la parole de Dieu, qui convainc les cœurs. Et 1 Corinthiens chapitre 14, versets 24 et 25, qui cible particulièrement les dons de prophétie. Mais si tous prophétisent et qu'il survient quelque non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, alors tombant sur la face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc c'est important d'exercer les dons spirituels, de demander à Dieu les dons spirituels, parce que au travers de la louange, au travers de la présence de Dieu, les dons peuvent se manifester. Donc on invite le Saint-Esprit, on invite Dieu à nous donner, on aspire aux dons spirituels les meilleurs, afin que l'Église soit édifiée, mais aussi les non-croyants puissent tomber sur leur face en entendant des choses qui les concernent. Et voilà comment on dit ça. Vous connaissez Stephen Lungu, excusez-moi, du Botswana, du Swahili, par exemple. Le petit pays au-dessus de, au-dessus de l'Afrique du Sud, c'était le Botswana? Le Botswana? Je pense que c'est de là qui vient. Parce qu'il y a plusieurs pays au-dessus de l'Afrique du Sud, hein, il faut pas se tromper dans tout ça. Cet homme il était devenu terroriste. Hein, il avait été élevé dans la rue, sans mère, sans père, bon, en sorte. Et quelle catastrophe, il savait même pas ce que c'était, une fourchette ou un couteau. Mais il voulait dans un groupe communiste, et il était arrivé dans un truc catastrophique, il voulait détruire le chapiteau où se trouvait le prédicateur qui annonçait la parole de Dieu. Mais il se dit, je vais quand même écouter deux, trois mots, qu'est-ce qu'il a raconté celui-là, puis on démolit le chapiteau et tout ce qu'il y a dedans. Et en écoutant, il n'a pas fallu longtemps, vraiment le prédicateur a prophétisé sur sa vie. Et il était vraiment surpris, il était poussé par le Saint-Esprit à l'écran. Vraiment, Dieu a parlé. Il n'a pas su faire autre chose que de venir devant, il s'est effondré là devant. Il était sauvé ce jour-là, complètement transformé par la puissance de Dieu. Extraordinaire. Il y avait une présence, parce qu'ils ont chanté aussi, là, ils ont adoré le Seigneur. Puis, il y avait l'onction sur le proclamateur de la parole, l'évangéliste. Et puis, il a été retourné parce que le don de prophétie était donné au pasteur qui prêchait. Et la parole de Dieu a retourné son cœur. Extraordinaire. Et sa vie a été complètement transformée. Il aurait pu faire un désastre ce jour-là, mais c'est lui qui a été transformé. La révolution, elle s'est passée dans sa vie. Extraordinaire. J'ai eu l'occasion de l'écouter deux fois, cet homme. Alors, la création d'un temple, c'est aussi l'adoration est créer un tremplin pour le sermon et le reste du culte. L'adoration prépare à l'annonciation de la parole et à l'ouverture du cœur des gens qui sont là pour recevoir cette parole. Quand on n'adore pas, si on avait directement la prédication quand on entre à l'église, ce serait pas la même chose. Et donc, ça prépare. La parole de Dieu prépare notre cœur à recevoir la parole. C'est la louange laboure notre cœur pour recevoir la semence de vérité. Alors, il y a l'aspect intérieur de l'adoration. Donc, l'aspect vertical, l'aspect horizontal, nous sommes avec nos frères et nos sœurs. Et aussi, il y a un aspect intérieur de l'adoration. L'adorateur est touché personnellement, et ça c'est important. L'adorateur, il est pénétré par l'Esprit du Seigneur. Dieu agit au fond de son cœur, il le touche, il est touché de manière extraordinaire. Donc ça veut dire qu'il vient offrir un sacrifice de louange, mais en même temps, Dieu est là et agit en lui. Donc il n'y a pas que l'acteur qui est nous, les acteurs qui sont nous, hein, mais il y a aussi Dieu qui est agissant au travers de la louange, parce que ça lui plaît, et parce qu'il agit dans nos cœurs. Alors, qu'est-ce que ça change intérieurement, dans le cœur de l'adorateur? Qu'est-ce qu'il y a comme changement? Ben, une libération vers une expression décoincée. Des fois, on est coincé. Pourquoi est-ce qu'on est coincé? Parce que nous avons notre vie trépidante. Et puis avec toutes nos pensées, avec tout ce qui forme l'ensemble de nos vies, et ça déborde des fois. Et puis comment est-ce que je me décoince? Ben justement, l'adoration, ça décoince. Ça décoince. Chut. Des fois, on n'est pas dans un bon état d'esprit. Il peut y avoir des choses qui nous sont énervées, dérangées. Et on se demande bien comment on va pouvoir s'en sortir. Mais dans la louange, c'est extraordinaire, on fixe les yeux sur le Seigneur et ces choses prennent une moins grande importance dans nos vies. Nous parvenons à dépasser nos difficultés et nous parvenons à voir Dieu, à visualiser, à voir les choses comme Dieu le veut. Et donc, c'est un temps aussi pour enseigner et renforcer des vérités spirituelles. Elles sont renforcées. Vous savez qu'il y a des vérités dans la louange? Et particulièrement dans les chants. Parce que bon, on utilise les chants. Il y a l'adoration spontanée des uns et des autres. Ça, j'aime beaucoup, ça. Elle se fait après les chants ou entre les chants. Vous êtes d'accord, hein? Et dans les chants, il y a des hymnes. Il y a des, comment je vais dire? Ce qu'on disait tantôt, hein. Comment? Des hymnes, des cantiques spirituels, et quand nous chantons ces hymnes et ces cantiques spirituels, dans notre église, je pense qu'on a un peu mis de côté certains hymnes, donc on va revenir davantage aux hymnes. Je pense qu'on est passé avec des chants plus modernes, etc., et c'est une bonne chose, on a bien fait de renouveler, etc. Mais c'est important de ne pas oublier les cantiques anciens. Pourquoi? Les hymnes, en tout cas. Pourquoi les hymnes? On peut encore créer maintenant. Les hymnes contiennent des vérités doctrinales très importantes, des vérités théologiques extrêmement importantes. Parce que, bon, si dans nos chants, nous chantons « Je t'aime, Seigneur, merci », c'est beau, mais ça exprime pas tout, hein. Il faut aussi des vérités plus profondes. Parce que ces vérités profondes de la parole de Dieu enracinent notre foi dans la parole de Dieu, pas dans la légèreté de quelques petites paroles gentilles. Ça peut être beau, hein, ça peut être chouette, mais il nous faut des paroles plus ancrés dans la parole. C'est pour ça que les hymnes nous font voir Dieu dans les vérités scripturaires, les vérités de la parole sur laquelle nous allons tenir dans les vents et les tempêtes de cette vie. Et donc, c'est déjà un apprentissage. Nous n'avons pas que la prédication qui nous apprend des choses, mais la parole de Dieu est aussi inscrite dans les chants. Et c'est important d'avoir des chants profonds, avec des paroles profondes qui vont nous chercher jusque dans notre âme et qui dévoilent nos sentiments, qui nous parlent au plus profond de nos cœurs, qui nous rappellent des choses extrêmement importantes et édifiantes pour nos vies. Quand nous chantons des versets bibliques, nous mémorisons la parole de Dieu. Il y en a beaucoup qui ont compris cela. Ils ont fait apprendre les enfants des chants afin qu'ils retiennent la parole de Dieu. Parce que retenir par cœur la parole de Dieu, c'est une chose, mais la retenir parce qu'on chante, c'est très facile. C'est très heureux. On est même en train de danser. Hop, et on apprend. En Afrique, c'est ce qu'ils font. Et ils apprennent, et ils retiennent. On danse, on chante. Mais en fait, qu'est-ce qu'on cite la parole de Dieu? C'est ça qui est le plus important. Et la parole de Dieu, on la retient. C'est ça qui est important. Les chants riches en enseignements doctrinaux nous aident à nous édifier. En moyen d'exprimer nos sentiments intérieurs, eh bien, ça va nous ouvrir à une plus grande sainteté. Donc la louange nous ouvre, nous aide à exprimer nos sentiments les plus profonds et nous aide à entrer dans une sainteté plus profonde. Parce qu'on s'ouvre vraiment. On s'ouvre à Dieu. Cette ouverture va créer des liens de communication entre Dieu et nous. Il va approfondir notre relation. Nous allons être plus profonds, plus forts, plus perméables à l'Esprit de Dieu, perméables à la parole de Dieu. Nos cœurs seront assoiffés. Et enfin, on va recevoir cette parole. Elle va tomber comme une pluie dans une terre qui a été préparée par le Seigneur. Et là, la semence, je peux vous assurer, elle va croître et produire du fruit. Et quand nous adorons le Seigneur, nous sommes changés en sa ressemblance. Ça, c'est aussi quelque chose qui se passe. C'est que quand nous adorons Dieu, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. De gloire en gloire, nous sommes transformés par l'Esprit Saint pour être rendu conforme à Jésus-Christ dans son caractère et ses sentiments. Et nous avons la promesse aussi dans 1 Jean chapitre 3 verset 2 d'un jour être devant lui face à face et de le voir face à face. Et bien quand on est dans la louange, nous avons les yeux sur le Seigneur et nous sommes transformés à l'image du Seigneur. C'est vrai qu'un jour ce sera comme ça, hein. Nous aurons un corps glorifié, semblable au sien, et nous régnerons avec lui. Mais quand nous tournons nos yeux vers le Seigneur, nous sommes transformés à son image. Et vous avez aussi ça dans 2 Corinthiens 3, 18, nous sommes transformés à la ressemblance de Jésus-Christ. Dans 1 Chronique, chapitre 9, verset 33, il nous est dit qu'il y avait des chantres, les Lévites, qui étaient consacrés à la louange, au temps de David, au temps d'autres rois aussi, mais particulièrement au temps de David, des chantres étaient assignés à la fonction d'adorer Dieu nuit et jour. Nuit et jour, ça veut dire que nous aussi, nous devrions être assignés à l'adoration de Dieu nuit et jour. Ce sont là les chantres, chefs de famille de Lévites, demeurant dans les chambres, exemple des autres fonctions, parce qu'ils étaient à l'ouvrage, jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Ça veut dire, le jour, je peux adorer Dieu. Et la nuit, je peux adorer Dieu. Et nous devons faire cette expérience. Nous allons avoir des jeûnes et des prières en soirée. D'accord? Je crois que c'est important. Il n'y a pas que le matin qu'on peut adorer Dieu, ou chercher Dieu. Il y a le soir aussi, les veilles de la nuit. Lisez tout, dans la parole de Dieu tous les versets qui parlent des veilles. Et veiller avec le Seigneur et adorer le Seigneur pendant les veilles, c'est important aussi. Il y a le matin, c'est important parce qu'on est frais, disposé, mais le soir aussi, c'est important. Les Lévites, ce sont notre modèle aussi pour la louange. Nous sommes appelés à offrir continuellement un sacrifice de louange, Hébreux 13, verset 15. Continuellement, nous sommes appelés à offrir des sacrifices d'action de grâce par nos lèvres, l'adorer en esprit et en vérité. Alors, bien sûr, il y a une relation entre adorer et obéir à Dieu en veillant sur sa voix. L'adoration n'est pas tout. L'adoration, ça doit être en relation avec le fait de poursuivre la face de Dieu, de poursuivre la volonté de Dieu, d'accomplir ce que Dieu nous demande. Si je suis un adorateur ici, et je suis fainéant chez moi, je vais dire une bêtise, si je vis une vie qui n'est pas conforme à l'évangile en dehors et que j'adore Dieu dans l'église, ça ne va pas. Il faut que tout fonctionne ensemble. Il y a une relation entre adorer et obéir Dieu en veillant sur sa voix. Veiller sur sa voix, c'est important. Je fais attention à comment... Donc, j'exerce la sagesse. Je demande à Dieu la sagesse et je l'exerce dans ma vie pour veiller à ma voix. Je dois vraiment avoir une vie qui correspond à ce que je crois. Le psaume 50, verset 23 dit ceci. « Celui qui en sacrifice offre la reconnaissance me glorifie et à celui qui veille sur sa voix, je ferai contempler le salut de Dieu. » Donc, veiller sur sa voix doit correspondre à l'adoration. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. L'adoration adoucit notre cœur et nous rend sensibles à l'Esprit Saint. Si je veux être sensible à l'Esprit Saint, j'adore Dieu. Et je vais apprendre à être sensible. C'est un apprentissage. Soyons des adorateurs. Cultivons la louange. Ayons cette culture de l'adoration. Alors, il y a un modèle dans la parole de Dieu pour l'expérience de l'adoration. Il y a un modèle formidable, c'est Ésaïe, au chapitre 6. C'est une expérience d'adoration classique. C'est un modèle dans notre relation avec Dieu, Ésaïe 6. Et je vais le lire, si vous voulez bien. « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ta faute est enlevée. Et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Alors, il y a plusieurs étapes dans ce passage extraordinaire. La première chose, c'est la révélation divine. Dieu se révèle. Dieu donne une vision à Ésaïe. Pourtant, c'est un homme qui se sanctifiait, mais il va recevoir une vision particulière. Dieu se révèle lui-même à son peuple. Il veut se révéler à nous. Il veut se révéler à nous. Dans la louange, Dieu veut se révéler à nos cœurs. Alors, la deuxième chose, c'est l'adoration. Les anges qui adorent nuit et jour le Seigneur. Et Dieu veut qu'on s'associe aux anges pour adorer celui qui vit au siècle des siècles. Le peuple de Dieu répond avec respect au caractère de Dieu. C'est tout à fait normal. Alors, il y a ensuite la confession. Confession de quoi? Il y a une conviction de péché et une confession des péchés. Le peuple de Dieu confesse ses péchés parce que Dieu est un Dieu saint. Et Dieu veut vraiment nous montrer quel Dieu saint il est. Il est saint, il est jaloux il peut supporter aucun mal, aucun péché dans nos vies. Quand nous sommes dans sa présence, nous allons faire l'expérience de sa sainteté. Et l'expérience de sa sainteté, c'est aussi l'expérience de notre péché aussi. Parce que devant lui, forcément, dans sa lumière, plus on s'écarte de Dieu et moins on voit qu'on est sale, plus on est proche de Dieu, dans sa lumière, et plus on découvre les problèmes. Mettez un spot sur un mur, voyez pas les défauts de ce mur si vous mettez pas un gros spot, mais si vous mettez un gros spot, vous allez dire, tiens, j'avais pas vu ce défaut là, tiens, ah. Et oui, plus il y a de lumière, et plus on voit les défauts. Si vous mettez une lumière tamisée, on voit plus aucun défaut. On verra même pas les toiles d'araignée. Mais si on met des spots, évidemment, là, oui, les poussières, etc., ça va se voir. Hein, si vous, voilà. Donc, idéalement, Dieu veut qu'on s'approche de lui, qu'on soit éclairé de telle manière qu'on puisse confesser nos fautes. Puis alors, qu'est-ce qui suit? C'est le pardon de Dieu. Dieu pardonne les péchés de son peuple. L'ange prend une pince et prend un charbon ardent et touche les lèvres du prophète pour qu'il soit purifié. Malheur à moi, mes lèvres. Je fais partie d'un peuple qui pêche, qui dit des choses qu'il ne faut pas, et malheur à moi, je suis perdu. Et cet ange prend une pincette et met ce charbon ardent qui purifie, qui cautérise les plaies, qui sanctifie, qui purifie, qui nettoie la vie d'Ésaïe. Non, Dieu, il est celui qui pardonne, qui purifie non seulement nos bouches, parce que de nos bouches sort la louange, mais quelquefois il se passe autre chose. Par nos bouches, il se passe des critiques, des tas de choses négatives qui passent par nos bouches. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Et Dieu purifie nos cœurs afin que nous soyons des gens sanctifiés, des vases d'honneur qui des flambeaux dans ce monde qui annoncent les vertus de celui qui nous a appelés. Il y a le pardon de Dieu. Et puis la proclamation de Dieu. Dieu proclame. Il proclame la purification. Ton péché est ôté. Ça, c'est l'ange qui le dit. Ton péché est ôté. Ton péché n'est plus. C'est fini. C'est fini. Dieu proclame un message à l'auditoire purifié. Et puis, il y a la consécration. Ésaïe se consacre à Dieu. Et il veut se donner à Dieu. Il veut se donner à Dieu. Et il veut accomplir la volonté de Dieu. Il se consacre à Dieu. Le peuple de Dieu exprime son désir d'être utilisé par Dieu. Envoie-moi, je veux faire ta volonté. Je suis tellement chaud. Je veux glorifier. Tu m'as réchauffé dans ton amour. Maintenant, je veux accomplir ta volonté. Que tu me dises de rester ou que tu me dises d'aller, que je le fasse comme avec la colonne de nuée et de feu dans le désert pour le peuple. Et puis cet engagement, Dieu engage son peuple à le servir. Dieu nous engage à le servir. C'est ce que Dieu fait. Et ce qui peut arriver pendant la louange, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu fait au travers de cette louange? Qu'est-ce que Dieu fait au travers de cette louange? Qu'est-ce qu'il peut faire au travers de cette louange? On avait déjà vu la fois passée, au temps de Josaphat. Ils ont loué Dieu, ils ont adoré Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'adoration? L'ennemi a été vaincu. Ils ont été délivrés de tous leurs ennemis. Premièrement, Dieu écoute activement. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses, des grandes choses que tu ne connaissais pas. Ah, quand on invoque le Seigneur dans la louange, il va nous répondre. Parce qu'il est Dieu, et il est en dialogue avec nous. On n'a pas un monologue à lui dire, plein de trucs à lui dire sans qu'il y ait de réponse, parce que Dieu est vivant. Et Dieu nous répond, Dieu écoute activement. Dieu change des vies. Dieu nous change, nous transforme. Il y a une transformation, on l'a vu dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous sommes changés de gloire en gloire par l'Esprit, le Seigneur, l'Esprit. Il y a une conviction du péché, purification du péché, engagement. On s'engage à suivre le Seigneur. On se réconcilie aussi, parce que Dieu nous montre des choses et nous prenons le parti de remettre les choses droites, de remettre le niveau, de dire, ben voilà. D'accord, je vais pardonner. je ne vais pas garder quelque chose dans mon cœur contre quelqu'un. Ça ne va pas. Dans la louange, je ne peux pas garder des trucs contre quelqu'un. J'adore dire, oh, t'es tellement... Et puis, je me souviens, j'ai quelque chose contre... Je veux pas continuer à adorer Dieu. On serait des faux jetons, hein? C'est pas vrai? Dieu, il est pardon. Il est pardon, il me pardonne. Alors, moi, je dois pardonner à tous ceux à qui m'ont offensé. Dans la louange, je dois vivre le pardon. Il n'y a rien à faire. Dieu change des situations les plus terribles. On l'a vu avec Josaphat. Dieu se fait connaître à nous. On entre dans une connaissance plus grande de sa part. En conclusion, sur Internet, j'ai lu un témoignage d'une sœur qui dit ceci. Alors j'ai dit tout simplement au Seigneur, « Seigneur, je souhaite passer un temps de qualité avec toi tous les soirs. » Et autant de temps que nécessaire, mais s'il te plaît, je te demande demain soir d'être là, présent, afin que cela m'aide un peu. Ma requête était simple, mais sincère. Je savais que Dieu l'entendait. Mais j'étais loin de m'attendre à une telle rencontre le lendemain soir. À nouveau, après une journée affairée, une heure environ avant de me mettre devant le Seigneur dans ma cuisine, j'ai commencé à ressentir une paix que Dieu seul donne. Dans mon cœur, cette paix était un mélange de joie, de bien-être et de reconnaissance à Dieu. À l'instant, le Seigneur me rappela que je lui avais demandé sa présence. Alors que le moment de prière arriva, la présence de Dieu était telle, j'aurais pu croire que Dieu avait détaché un morceau du ciel pour me l'apporter en cet instant. J'étais transporté dans une autre dimension, celle de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Ce fut un moment extraordinaire dans la présence de Dieu, lui et moi seul, plus rien ne comptait plus que cet instant avec le Seigneur. Cette expérience était particulière parce qu'elle était directement liée à une simple requête, le fait de demander sa présence. Demandons la présence de Dieu. Elle était seule dans sa cuisine. Elle a eu un moment d'intimité avec Dieu extraordinaire. Elle avait demandé, elle a reçu. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Demandez plus, demandez la présence de Dieu. Et passez du temps avec lui. Tirons notre force dans la louange. Tirons notre force dans la louange. Prenons des forces nouvelles dans la louange. Et nous proclamerons plus aisément la bonté de Dieu dans notre monde. Nous aurons davantage facile d'apporter cette parole merveilleuse qui change les vies parce que nous sommes transformés dans la louange et parce que nous croyons que Dieu peut transformer les gens en venant à Christ. Voilà pourquoi. Extraordinaire. Donc nous allons chanter.